les podcasts de Radio Vatican.
Fin novembre, le pape se rendra en Asie, en Birmanie puis au Bangladesh, deux pays marqués par la tragédie des Rohingyas. Depuis une série d'attaques menées fin août dans l'ouest de la Birmanie par des membres armés de cette minorité musulmane, la répression de l'armée birmane a été terrible. La zone nord de l'État Rakhine est bouclée et ainsi inaccessible à l'ONU, mais certains responsables onusiens, accompagnés par plusieurs diplomates, ont pu se rendre cette semaine, lundi 2 octobre, dans le district de Mandao, le plus proche de la frontière du Bangladesh. La zone était à 90% peuplée de musulmans rohingyas avant le mois d'août et compte aujourd'hui des dizaines de villages brûlés et désertés de leurs habitants. Les Nations Unies, qui dénoncent depuis des semaines l'épuration ethnique, affirment maintenant que l'ampleur de la souffrance humaine est inimaginable, appelant dans un communiqué les autorités birmanes à l'arrêt des violences et demandant un accès sans restriction pour l'aide humanitaire sur place. Comme la plupart des ONG, les agences de l'ONU, comme le Programme Alimentaire Mondial ou l'UNICEF, n'ont pas accès à l'ouest birman, elles se trouvent de l'autre côté de la frontière au sud du Bangladesh. Ce mardi, l'agence onusienne dédiée à la protection de l'enfance a lancé un appel aux dons. 64,8 millions d'euros au minimum sont nécessaires pour ces opérations d'intervention humanitaire d'urgence afin de secourir les 500 000 réfugiés rohingyas qui se trouvent au Bangladesh. Jusqu'à 60% d'entre eux sont des enfants. Jean-Jacques Simon est le porte-parole de l'UNICEF au Bangladesh.
On rentre en contact avec eux à travers ce qu'on appelle à l'UNICEF les espaces amis des enfants. En fait, il y a des gens qui s'occupent d'appeler les enfants pour que ceux-ci viennent sous un toit avec des gens qui peuvent s'occuper d'eux, qui peuvent les faire jouer. Donc, il y a des jeux récréatifs, il y a certainement des encadreurs, il y a des psychologues. Et on prend note d'où ils viennent, s'ils sont accompagnés, s'ils ont leurs parents. Et s'ils n'ont pas de parents, on commence la procédure pour retracer leurs parents ou leurs proches. Et en fait, on en a jusqu'à un moment répertorié plus de 1700 enfants qui sont non accompagnés ou séparés, mais il y en a sûrement beaucoup plus d'autres parce qu'on n'est pas partout dans les camps. On a déjà quand même plus de 50 de ces centres amis des enfants, dont plusieurs qui sont mobiles, donc qui se promènent d'un endroit à l'autre pour justement être capable d'aller chercher, de répertorier tous ces enfants. Mais on n'a certainement pas terminé la tâche, donc ce chiffre dont je vous parlais va certainement augmenter.
J'ai vu que vous travaillez justement aux regroupements familiaux, si possible évidemment, avec le CICR.
Oui, tout à fait. On travaille avec tout le système de la Croix-Rouge lorsqu'il s'agit de faire ces regroupements familiaux. On a nous-mêmes notre propre système, mais il est clair qu'on fait appel à des partenaires comme le système de la Croix-Rouge. Et dans ce cas précis, c'est extrêmement important puisque le système de la Croix-Rouge a accès au territoire qu'on appelle le Rakhine State, qui est le territoire d'où viennent les Rohingyas au Myanmar. Alors que le système des Nations Unies n'a pas encore accès à ce territoire et on sait que certains des parents sont restés derrière.
Vous dites que c'est des enfants qui ont traversé des épreuves dont on a des difficultés à nous-mêmes prendre l'ampleur. Est-ce que ces enfants viennent spontanément dans ces centres? Ça doit être difficile, j'imagine, qu'ils se méfient des adultes?
Ils se méfient des adultes, mais ce sont des adultes qui sont des encadreurs, ce sont des psychologues qui sont là pour justement les aider à parler de ce qu'ils ont vécu. Et on les aide à parler, mais aussi on leur permet de dessiner. Et grâce aux dessins qu'ils font, on arrive à comprendre un peu mieux ce qu'ils ont en tête, ce par quoi ils sont passés. Et les dessins sont parfois assez descriptifs, ils sont parfois extrêmement violents. Il y a des scènes de guerre, il y a des scènes de massacre qu'on voit sur leurs dessins. Et ça nous donne une certaine indication de la violence qu'ils ont laissée derrière eux et la violence qui reste dans leur tête, bien entendu.
On a évidemment à l'esprit toutes ces images de camps complètement surpeuplés, où la boue, parce qu'il pleut, se mélange aux excréments, parce que vous l'avez dit, il y a peu de latrines. Il y a une urgence sanitaire, selon vous, sur place?
Tout à fait. L'urgence sanitaire, elle est juste devant vos yeux lorsque vous arrivez dans ces camps. Parce que, imaginez-vous, du jour au lendemain, c'est une ville d'un demi-million de personnes qui doit être construite avec des services de tout genre. Et un des services les plus importants dans ces cas-ci, c'est de construire des toilettes. On veut empêcher que l'eau propre se mélange à l'eau sale et que les enfants attrapent des maladies hydriques, mais aussi attrapent certainement ces diarrhées qui, parfois, peuvent causer la mort. Alors, on fait tout pour construire ces toilettes, on fait tout pour amener de l'eau potable, parce que ces deux éléments sont extrêmement importants. Et bien entendu, on fait tout pour construire des centres de santé, même s'ils sont petits, dans lesquels ils pourront venir, si ces enfants sont atteints de diarrhée, qu'on puisse les traiter le plus rapidement possible.
Je crois aussi que vous allez bientôt recevoir des vaccins, 900 000 doses de vaccins contre le choléra.
La campagne de vaccination qui est faite avec le ministère de la Santé du Bangladesh, en coordination avec l'OMS, et plusieurs autres partenaires doit commencer le 10 octobre et elle devrait en fait toucher toute la population de réfugiés. Mais on a besoin de beaucoup plus d'autres doses parce que 900 000, ça ne nous donnera pas assez pour couvrir toute la population adulte Rohingya et la population bengali qui était déjà sur le même territoire, en plus des enfants.
Il me semble aussi que les enfants Rohingyas ne sont pas tous vaccinés contre des maladies comme la poliomyélite.
Exactement. Donc, ce qu'on a constaté lorsque ces enfants sont arrivés depuis la fin août, c'est que, de un, ils étaient mal nourris, ils ont un statut au niveau de la nutrition extrêmement bas, et en plus, dans la plupart des cas, ils n'étaient pas vaccinés. Donc, on a fait une première campagne de vaccination pour 150 000 enfants, avec les mêmes partenaires, mais on doit recommencer maintenant que nos vaccins sont arrivés. On a dû acheter des vaccins, non pas ici, puisqu'on ne pouvait pas les trouver dans le pays, mais on a dû faire venir ça d'Europe. Donc, c'est arrivé par avion et par camion ici. Donc, on s'apprête à recommencer une autre campagne jusqu'à temps qu'on puisse vacciner tous les enfants qui sont nouvellement arrivés et ceux qui étaient ici, bien entendu.
Pour parler de votre travail, vous, en tant qu'UNICEF, on a vu évidemment ces arrivées massives hein, en très peu de temps, puisque c'était la fin du mois d'août. Ça a laissé peu de temps pour s'organiser et justement, cette ville a explosé. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la collaboration entre les ONG avec le gouvernement, ça se passe bien ou c'est encore un peu compliqué malgré la bonne volonté des autorités bangladaises?
Les autorités ont montré beaucoup de bonne volonté. C'est sûr qu'au tout début, il y a eu des problèmes de logistique, des problèmes de coordination, comme ça arrive tout le temps ou presque dans ce genre de crise humanitaire, surtout lorsqu'il y a un tel afflux et aussi rapidement. Donc maintenant, je crois que la coordination est beaucoup meilleure entre les agences des Nations Unies, les grandes ONG et le gouvernement. Mais il est clair qu'on doit aller beaucoup plus rapidement, qu'on doit amener beaucoup plus d'éléments, que ce soit lié à l'eau, comme je vous parlais, l'eau propre, ou à tous les autres aliments qu'on doit absolument amener auprès de ces enfants qui sont mal nourris. Donc, il faut amener, en fait, tout ça très rapidement dans des endroits qui sont parfois difficiles d'accès. Vous avez mentionné la saison des pluies qui n'arrête pas ici en ce moment. Ça nous cause toutes sortes de problèmes d'accès parce que les voies d'accès sont très endommagées, même si en ce moment, les militaires du Bangladesh sont en train de refaire certains de ces sentiers qui sont très sinueux et très boueux. Le fait est qu'on a encore beaucoup de mal à accéder à ces endroits-là et à amener tout ce qu'il faut amener, notamment des camions citernes avec de l'eau propre.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner, offrir un peu de normalité à ces enfants?
Oui, en fait, il y a une lueur d'espoir. C'est clair que les enfants, lorsqu'ils ont besoin d'un semblant de normalité, ils veulent rentrer à l'école. Et en fait, on a construit des centres, ce ne sont pas des écoles, parce que ce n'est pas le même curriculum qu'un enfant qui aurait accès à une école ici au Bangladesh, mais c'est déjà un retour à une vie quasi normale. Donc, on a construit déjà près de 200 de ces petites écoles et on s'apprête à en construire au total 1500 pour 200 000 enfants des Rohingyas qui sont déjà ici et pour ceux qui viennent d'arriver depuis la fin août. Donc, ça, c'est une lueur d'espoir parce que ça leur offre un environnement où ils peuvent apprendre, ils peuvent jouer entre eux, les enfants, et être protégés parce que l'école offre ce genre de contexte.
200 learning centers, ça veut dire 200 enseignants. Est-ce que c'est des membres de la population locale? C'est des gens que vous faites venir au Bangladesh?
Il y a plusieurs cas en fait. Je viens d'une de ces petites écoles où il y avait un enseignant qui est venu avec les réfugiés, qui est lui-même birman et qui a enseigné là-bas à l'époque. Et il enseigne aujourd'hui à ses enfants Rohingyas dans une de ces petites écoles qu'on vient de construire. Parfois, on peut trouver ces enseignants ici localement. Parfois, ils sont arrivés eux-mêmes de la Birmanie récemment.
En tout cas, il n'y a pas d'anonymosité vis-à-vis de ces populations de la part des habitants bangladais.
Dans un premier temps, à la fin août, quand on a vu ce flot arriver ici, les populations locales bengali étaient très réceptives. En fait, on montrait beaucoup d'humanité. C'était très, très, très bien de voir une telle chose. Est-ce que ça va durer? Bon, on l'espère, bien entendu, mais il est clair que lorsque vous voyez arriver un demi-million de personnes dans un des districts les plus pauvres du Bangladesh, bon, ça peut éventuellement causer des remous. Et c'est pour ça que dans la demande de financement qu'on a fait, on va aussi cibler les populations locales qui étaient déjà ici et qui, en fait, aussi payent quelque part un prix. Parce que avoir 500 000 personnes de plus vivant avec eux, ben, c'est beaucoup plus de partage de ce qu'il y a déjà en très peu. Donc, il faut partager, mais il faut aussi, de notre côté, être prêt à leur offrir des services, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de la protection. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé 300 000 d'entre eux.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.